Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, 2h30 ensemble avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux sur tous les continents. À la une, aujourd'hui, jeudi 24 avril, les recommandations de Donald Trump pour arriver à la paix en Ukraine, balayées par Volodymyr Zelensky. Pas question pour lui de renoncer à la Crimée annexée par la Russie en 2014 et occupée depuis. Le président ukrainien répète qu'il faut un cessez-le-feu immédiat et sans condition, mais Donald Trump accentue la pression. Il a de nouveau menacé hier de ne plus s'impliquer dans les négociations si un accord n'était pas trouvé rapidement. Alors, quelle marge de manœuvre pour les autorités ukrainiennes? Nous poserons la question à notre invité, chercheur chez Open Diplomacy, dans un peu plus d'une heure, et nous appellerons notre correspondante à Kiev dans notre demi-heure européenne à 11h30 temps universel. Donald Trump qui inquiète aussi dans un autre registre les étrangers qui vivent aux États-Unis, à commencer par les Haïtiens, particulièrement dans le viseur du président américain qui a suspendu différents programmes de protection des réfugiés.
On nous a envoyé une lettre de révocation de cette même programme. On nous a dit que nous devions laisser le pays avant le 13 ou bien le 24 de ce mois, avril 2025. Ça a tellement fait peur. Il y a plein de monde chaque jour parce qu'ils ont peur d'être renvoyés en Haïti. Moi-même, j'avais peur.
Cet homme a donc choisi de fuir au Canada où l'a rencontré notre correspondante. Reportage à écouter juste après le journal de 13h, temps universel.
RFI Midi.
Au sommaire également, le bilan alourdi de l'attaque djihadiste commise dans le nord du Bénin. Les autorités confirment la mort de 54 militaires. Deux positions attaquées au même moment la semaine dernière. Nous appellerons notre correspondant à Cotonou dans Afrique Midi, à midi et demi, temps universel. Et nous parlerons aussi du sommet de la Commission de l'Océan Indien qui débute aujourd'hui. Et puis comme chaque jour, l'actualité française dans quelques minutes. Ce sera juste après le journal. Bienvenue.
RFI à Paris, 89 FM.
Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une de votre journal, l'impatience de Donald Trump sur le dossier ukrainien.
Alors que Kiev a subi une attaque massive la nuit dernière, une pluie de drones et de missiles s'est abattue sur la capitale ukrainienne, faisant au moins 8 morts, dernier bilan, 70 blessés. Le président américain veut à tout prix arracher un accord entre Kiev et Moscou, quitte à entériner les conquêtes territoriales de la Russie, notamment celle de la Crimée, inacceptable pour le président ukrainien et les Européens. Nicolas Roca.
La Maison-Blanche esquisse les contours d'un accord de paix qui reprend le narratif russe autour de cette région ukrainienne annexée par Moscou en 2014. « Je pense avoir un accord avec la Russie », a lancé Donald Trump depuis le bureau ovale, tout en déplorant des discussions plus difficiles avec Volodymyr Zelensky. Pour le président américain, la péninsule de Crimée est perdue depuis des années pour l'Ukraine et il estime que le refus de Kiev d'accepter les termes proposés par Washington ne fera que prolonger les tueries. Un accord inacceptable pour Kiev, reconnaître la souveraineté de la Russie sur la Crimée, c'est abandonner l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Sur le réseau social X, Volodymyr Zelensky a publié une déclaration de 2018 de Mike Pompeo, celui qui était chef de la diplomatie américaine durant le premier mandat de Donald Trump, refusait alors de reconnaître la souveraineté de la Russie sur la péninsule. Une ligne très éloignée de celle prônée aujourd'hui. J.D. Vance, le vice-président, suggère de geler les lignes de front actuelles et de procéder ensuite à un échange de territoire. Des efforts de médiation salués par le porte-parole du Kremlin.
Et Moscou enfonce le clou. Dernière déclaration en date. Le Kremlin se dit complètement d'accord avec Donald Trump au sujet de la Crimée. C'est un territoire perdu par l'Ukraine depuis des années. Côté ukrainien, après l'attaque massive la nuit dernière, le président Zelensky, en visite en Afrique du Sud, a décidé d'écourter son déplacement pour regagner Kiev au plus vite.
Les fidèles continuent d'affluer au Vatican. Jusqu'à demain soir, la dépouille du pape François est exposée dans la basilique Saint-Pierre.
Près de 50 000 personnes se sont déjà recueillies devant son cercueil. Un gros dispositif de sécurité est en place pour filtrer la foule aux abords du Vatican, ce qui ne décourage pas les fidèles qui se pressent encore en masse aujourd'hui. Place Saint-Pierre, des mesures de sécurité qui seront encore renforcées samedi, jour des obsèques du pape. Beaucoup de cérémonies en l'honneur de François ont lieu aussi de par le monde, comme au Brésil, à Rio de Janeiro hier. La fête de São Jorge est suivie tous les ans par des milliers de fidèles le 23 avril, mais cette année, la traditionnelle journée de messe s'est accompagnée d'un hommage au pape François. Reportage de Sarah Cozzolino.
Vêtue de sa cape rouge sur son cheval blanc et armée de sa lance, la statue de Saint-Georges y défile dans tout le quartier de Kinchin. C'est la première fois que Sergio vient ici.
C'est un saint qui représente les Brésiliens, car nous sommes des guerriers. Nous savons ce que ça veut dire de devoir tuer un dragon par jour. Il symbolise le labeur, la lutte au quotidien.
Dans les rues de ce quartier de la zone nord, on croise toutes les générations habillées en rouge et blanc. La cérémonie rassemble aussi des fidèles d'autres religions afro-brésiliennes comme Maria Eduarda.
J'appartiens au Candomblé et nous rendons aussi culte à São Jorge, sauf que pour nous, c'est Ogum. Il représente le chemin, la prospérité et beaucoup de gens viennent ici lui demander des grâces.
Demander mais surtout remercier. Cette année, la cérémonie a été marquée par des hommages au pape François. Valdercir, 70 ans, se sent reconnaissant.
Pour tout ce qu'il nous a enseigné, comme São Jorge, le pape était aussi un guerrier à sa façon, malgré ses problèmes, malgré sa santé. Il n'a pas baissé les bras.
Le président Lula a déclaré un deuil national de 7 jours au Brésil et se rendra aux funérailles du pape François ce samedi. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Après l'attentat meurtrier au Cachemire indien, la tension monte entre New Delhi et son voisin pakistanais. Et
l'Inde a ordonné à tous les citoyens du Pakistan, à l'exception des diplomates, de quitter son territoire d'ici au 29 avril. Les autorités indiennes accusent Islamabad d'être responsable de l'attaque qui a causé la mort de 26 civils dans sa partie du Cachemire. Mesure de rétorsion immédiate, le Pakistan vient d'annoncer la fermeture de sa frontière ainsi que de son espace aérien à l'Inde, interrompre également le commerce avec son voisin. Islamabad décide aussi l'expulsion de diplomates indiens. Il n'y a pas de négociation, Pékin est formel, aucune discussion n'est en cours avec Washington sur le dossier commercial, un démenti qui intervient alors que Donald Trump avait suggéré qu'un accord était en vue entre les États-Unis et la Chine. Le bras de fer continue entre les deux grandes puissances, même si Donald Trump a promis de réviser les surtaxes imposées à Pékin, jugées trop élevé après les avoir lui-même augmenté à 145%.
Et sur le dossier du climat, Pékin entend bien poursuivre ses efforts.
Loin des décisions climato-sceptiques prises par l'administration Trump, quelle que soit l'évolution de la situation internationale, les efforts de la Chine pour lutter contre le changement climatique ne ralentiront pas. C'est la promesse du président chinois lors d'un sommet virtuel sur le climat organisé par le Brésil à quelques mois de la COP30. Xi Jinping a réaffirmé l'engagement de la Chine à faire progresser l'action climatique. Cléa Broadhurst.
Sans nommer directement les États-Unis, le président chinois a dénoncé le protectionnisme et l'unilatéralisme de certains grands pays qu'il accuse de fragiliser l'ordre international. Il a mis en avant les avancées chinoises dans les énergies renouvelables, affirmant que son pays avait construit les plus grands systèmes au monde, ainsi qu'une chaîne industrielle complète dédiée aux nouvelles énergies. Une manière, pour beaucoup, de critiquer implicitement le président américain Donald Trump, qui a quitté l'accord de Paris et qui soutient les énergies fossiles. Cette réunion, convoquée par le secrétaire général de l'ONU, a réuni des dirigeants du Brésil, de l'Union européenne et d'autres régions du globe. Les États-Unis, eux, n'étaient pas invités, une absence qui illustre le fossé croissant entre Pékin et Washington sur les questions climatiques. Et la présence de la Chine était essentielle. Il est inhabituel pour Xi Jinping de prendre part à de telles réunions, mais pour lui, ce sommet a aussi été l'occasion de se positionner en leader mondial, stable, responsable et engagé dans la lutte contre le changement climatique face à un monde secoué par les tensions commerciales et politiques, mais aussi se démarquer comme un contrepoids à l'imprévisibilité de Trump. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
À Madagascar, Emmanuel Macron a promis de créer les conditions de pardon de la colonisation. Une séquence mémorielle pour le président français dans l'île de l'océan Indien, ancienne colonie française. Une commission d'historiens des deux pays pourrait être mise en place. Par ailleurs, d'Antananarive, Emmanuel Macron a défendu l'intégration de Mayotte, département français, à la commission de l'océan Indien alors que les Comores s'opposent à son adhésion.
En France, le lycée musulman Averroès peut afficher sa satisfaction.
Après plus d'un an et demi de bataille, le tribunal administratif de Lille vient de rétablir le contrat le liant à l'État. Il avait été rompu en 2023 par la préfecture du Nord. Les autorités l'accusaient de manquement grave aux principes fondamentaux de la République. Le tribunal a suspendu l'annulation, faute de véritables preuves. La vie du lycée va donc pouvoir reprendre comme avant. Et pour les élèves comme pour les professeurs, c'est un véritable soulagement. Un reportage de Lou Ecal.
Les professeurs se prennent dans les bras. Les élèves ont le sourire aux lèvres. Najla est en première au lycée Averroès. Et à l'annonce de la décision, elle a laissé exploser sa joie.
On voyait tout le monde heureux, courait partout, se faisait des câlins. Tout le monde dansait, mettait la musique. C'était assez exceptionnel. C'est gravé dans ma mémoire en tout cas.
Depuis un an et demi, la situation était particulièrement difficile pour Averroès. Les subventions du lycée se sont effondrées. De nombreux enseignants et élèves ont dû partir. Et pour ceux qui sont restés, comme Aïcha, professeur d'anglais, cette période n'a pas été simple à gérer.
Stress, beaucoup d'incompréhension face à ce qui se passait, un sentiment d'injustice. On ne comprend pas pourquoi on est attaqué, on fait notre travail convenablement et en même temps on doit continuer à assurer nos cours. Non, vraiment c'est un soulagement à la fois maintenant, mais surtout aussi pour notre avenir où enfin on peut se projeter de façon sereine.
Un rendez-vous avec le rectorat est prévu pour rétablir les droits de l'établissement. Et désormais, pour Éric Dufour, directeur du groupe scolaire, le temps est à l'apaisement.
On ne souhaite qu'une chose, c'est recouvrer la confiance de l'État, et y compris bien sûr avec la région. On ne demande qu'à travailler ensemble en bonne entente.
La direction d'Averroès peut souffler, elle espère déjà le retour des professeurs et élèves qui avaient dû quitter l'établissement après la suspension du contrat.
Un reportage de Lou Ecal a noté que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dit que l'État allait faire appel. C'est un marathon qui a commencé au Queen Elizabeth Hall de Londres, un marathon musical. Le pianiste allemand Igor Levit donne un concert unique. Il doit durer plus de 16 heures. 16 heures de solo d'une partition d'Eric Satie intitulée Vexation. Cette partition d'une seule page a été pensée par le compositeur français pour être jouée 840 fois d'affilée. Igor Levit a déjà relevé le pari en studio à Berlin pendant 20 heures. Il y a quelques années, lors du confinement, cette fois-ci, c'est en public. Les spectateurs peuvent assister au concert soit pour une heure, soit dans sa totalité. Je vous conseille d'écouter. Il existe des extraits de sa performance à Berlin sur YouTube. C'est hypnotique.
Merci Karine Bellicha. À tout à l'heure. L'actualité en France durant les 20 prochaines minutes. La France où l'on reparle de l'affaire Betaram.
RFI Midi.
Notre-Dame de Betaram, école privée catholique du Sud-Ouest, dans laquelle des élèves ont été victimes de violences psychologiques, physiques et d'agressions sexuelles. Les premiers signalements remontent à plusieurs décennies sans que jamais il n'ait abouti ni fait cesser ces violences. Et aujourd'hui, celui qui a brisé le silence publie un livre. Alain Esquer, fondateur du collectif des victimes, y raconte, avec une journaliste, la vie à Betaram grâce aux témoignages d'anciens élèves, dont la fille du Premier ministre, François Bayrou, qui a été durant sa carrière députée du département, conseiller régional, ministre de l'Éducation nationale et membre du conseil d'administration de l'établissement. François Bayrou sera entendu d'ailleurs par la commission d'enquête dans 3 semaines dans cette affaire qui prend de l'ampleur de manière exponentielle. Depuis les premières révélations, plus de 200 plaintes ont été déposées et les langues se délient également dans d'autres établissements privés. Marie Casadebé.
Alors, j'en sois sur plein de réseaux différents en fait.
Constance Bertrand sort de son sac son ordinateur portable.
J'en ai eu encore ce week-end.
Depuis un mois et demi, cette quadragénaire reçoit quasi quotidiennement des récits d'anciens élèves de l'établissement privé catholique où elle a été scolarisée.
À l'origine, on a ouvert ce groupe Facebook parce qu'on apprend le 3 mars qu'un surveillant de Betaram a poursuivi sa carrière directement après Betaram à Saint-Dominique-de-Nuit.
Mais les messages qui affluent ne concernent pas seulement ce surveillant.
En 5 jours, on obtient des témoignages de choses gravissimes sur 6 personnes.
Des accusations de violences physiques, psychologiques, d'agressions sexuelles et de viols. Beaucoup sont anonymes, publiés en messages privés. Constance, qui elle-même a été victime de harcèlement, décide alors de témoigner à visage découvert.
J'ai trouvé que c'était important de le faire pour que les gens sachent à qui ils s'adressaient. Et puis les témoignages arrivent. Ça, c'est mon cahier des horreurs, en fait. Je suis obligée de prendre des notes pour ne pas mélanger les témoignages, etc.
Une 50aine de victimes sont déjà sorties du silence pour des faits allant des années 80 au début des années 2000.
Une maîtresse qui arrache l'oreille d'une petite fille, une maîtresse qui donne des coups de poing dans la tête d'un enfant, un maître qui caresse des enfants sous la jupe. Les parents ont la plupart du temps fait des démarches auprès de l'institution, mais l'institution ne les a pas soutenus.
Combien alors vous avez répertorié de personnes accusées de violence?
On en est à une dizaine. On a des enseignants, des surveillants, des prêtres aumôniers, les censeurs. Censeur, c'est le responsable de la discipline.
5 plaintes ont été déposées, dont une pour viol.
Un enfant maltraité tout court, s'il vous plaît. un peu de courage.
Le 20 mars dernier, ensuite, Constance Bertrand prend la parole devant la commission d'enquête parlementaire mise en place fin février suite au scandale de Notre-Dame de Bétarame. Depuis, cette commission a enregistré des signalements dans 17 départements. Pour Arnaud Gallet, président de l'association de protection de l'enfance Move Enfant, un double phénomène explique ces révélations en cascade.
Un, vous avez le pouvoir d'identification. C'est-à-dire que les victimes s'identifient entre elles et ça leur permet de parler parce qu'elles vont se dire, bah, tiens, c'est ce que j'ai vécu. Le second élément est quand même extrêmement politique. Le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église en 2021, il disait que 108 000 enfants ont été victimes de violences sexuelles dans des établissements privés. Et personne ne fait rien. Du coup, vous avez une colère, en fait, qui vient. C'est-à-dire que les enfants ou les enfants devenus grands ont parlé, mais on ne les a pas protégés.
Ce MeToo de l'enseignement pourrait bien dépasser le secteur privé catholique. Pour la première fois ce mardi, la commission d'enquête s'est rendue dans un lycée public où un enseignant visé par plusieurs plaintes s'est suicidé fin 2023.
Reportage de Marie Casadebé. Alors pourquoi ces violences ont-elles pu rester tues pendant des dizaines d'années? C'est tout le travail de la commission d'enquête de répondre à cette question. Commission créée à l'initiative, entre autres, de votre invitée du jour, Véronique Rigolet. Vous recevez la députée Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale.
Bonjour Cyrielle Châtelain.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre sur RFI avec un mot, on l'a dit, pour commencer sur cette affaire Bétarame qui fragilise le Premier ministre François Bayrou, appelé à témoigner le 14 mai prochain devant la commission d'enquête parlementaire. Commission, on l'a dit, dont vous aviez avec le groupe écologiste réclamé la création dès la révélation du scandale en février dernier. 200 anciens élèves de cet établissement catholique dénoncent aujourd'hui les violences, y compris sexuelles, dont ils ont été victimes. Et parmi ces victimes, la propre fille du Premier ministre qui a assuré hier n'en avoir jamais parlé à son père. Quel peut être le poids de ce témoignage, Cyrielle Châtelain? Est-ce qu'il peut marquer un tournant dans cette affaire?
En vrai, je ne sais pas. Je pense qu'il a le poids que... Non, mais je le dis très sincèrement, je pense que si on avait demandé la création de cette commission d'enquête et que nous nous félicitons que la commission éducation ait pu créer cette commission d'enquête, c'est parce que chaque parole des victimes est glaçante, en fait, et qu'elle a un poids. Et donc, je ne veux pas minimiser la parole des autres victimes par rapport à cette parole qui, effectivement, est particulière, parce qu'il y a un lien avec le Premier ministre. Mais voilà, c'est
qu'on accuse d'avoir menti. Qu'on accuse le Premier ministre, qu'on accuse d'avoir menti. Hein. On rappelle qu'une plainte a été déposée contre François Bayrou pour non-dénonciation de crime. Est-ce que les déclarations donc de sa fille, qui dit bien, je n'en ai jamais parlé à mon père, le dédouanent en quelque sorte?
Alors la première chose, c'est que, en vrai, les déclarations du Premier ministre sont très peu claires. Il a d'abord dit qu'il n'était pas du tout au courant, puis après on a eu des déclarations dans lesquelles il nous disait que certes, on a eu des témoignages qui expliquent qu'il a été mis au courant dès les années à peu près 97, donc il y a très longtemps. D'ailleurs, on a des preuves dans la presse qu'il s'est rendu à Bétarame où il y avait eu un parent d'élève qui a essayé de tirer la sonnette d'alarme et qu'il protège l'établissement. Donc déjà, les faits, les témoignages mettent des doutes. Et en plus, la défense du Premier ministre est extrêmement floue. Il sait, mais il sait pas. Mais une autre de ses filles, on aurait parlé, mais finalement, comme il était dans autre chose, il ne l'aurait pas entendu. Enfin, on ne sait pas exact. Enfin, il n'y a pas de défense claire de la part du Premier ministre. Donc c'est indispensable que cette commission l'entende, c'est une bonne chose. Donc la première chose, on a des témoignages, on a un Premier ministre qui se débat avec ses explications, et maintenant on a sa fille. Moi, mon travail, et je pense que le travail de la commission, n'est pas de mettre en porte-à-faux une fille et son père. Et donc je pense qu'il faut qu'on se concentre sur les témoignages et sur la parole du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui est visé aujourd'hui. Et c'est ce flou, c'est ces atermoiements, c'est quand même, il nous explique que oui, il connaissait bien le juge parce qu'ils étaient voisins, mais bon, qu'ils en avaient parlé, mais sans être très au courant. Tout ça n'a aucun sens. Sa défense n'a aucun sens.
Une défense, quand même amènerait... une défense très floue du Premier ministre. Est-ce que vous pensez que son audition le 14 mai, par la commission d'enquête parlementaire sera déterminante? Et est-ce que vous avez par ailleurs des raisons, et peut-être vous venez de les exprimer, de douter de sa sincérité?
Alors, c'est une audition qui sera déterminante, parce qu'en fait...
De quelle manière?
Alors, un, parce qu'il va devoir s'expliquer, il va devoir répondre aux questions des députés longuement, que c'est une commission d'enquête, donc il sera finalement sous serment. Normalement, il ne doit pas se parjurer lors d'une commission d'enquête. Il a un devoir de vérité. Donc, c'est quand même déterminant. Il faut imaginer que les questions au gouvernement, c'est très court, hein, c'est 2 minutes. Là, on aura plusieurs heures pour questionner le Premier ministre. En tout cas, les députés auront ce temps-là pour le questionner, aller plus au fond des choses. Donc ça, c'est quand même déjà le cadre qui va nous permettre vraiment d'aller chercher la vérité. La deuxième chose, oui, moi, j'ai des gros doutes sur sa sincérité. Parce qu'en fait, il y a des faits matériels. Ces déclarations de 96, où alors qu'on a un parent d'élève qui a tiré la sonnette d'alarme parce que son enfant a été brutalisé, il va dans l'établissement et il le défend. Il défend cet établissement. Il se sert de son poids politique, de sa parole. Donc oui, il y a vraiment des doutes. Quand on voit le nombre de personnes qui finalement étaient au courant, on ne peut que douter de sa première réaction. Il dit qu'il ne savait rien.
Cette affaire pourrait, dans sa gravité, faire tomber le Premier ministre, à votre avis ?
Oui, c'est une question qui se pose très sérieusement. Je pense même que dans d'autres pays, il serait déjà tombé. Ne serait-ce que par... on parle, vous l'avez dit, de plus de 200 personnes qui ont été d'enfants, qui ont été violentées, qui ont reçu des coups, qui ont été violentées sexuellement. Et on parle d'un système d'omerta, où tout a été fait, non pas pour protéger ces enfants, mais pour protéger les agresseurs. Qu'un Premier ministre soit au cœur de scandale, dans beaucoup d'autres pays, le Premier ministre aurait de lui-même rendu sa démission.
Voilà pour cette affaire qui fragilise le Premier ministre, déjà par ailleurs au plus bas dans les sondages, et alors même que désormais une majorité de Français, 52%, souhaitent la censure du gouvernement Bayrou, selon un sondage paru hier. Est-ce que vous la souhaitez également, cette censure, Cyrielle Châtelain ?
Vous savez, nous avions voté la censure de François Bayrou dès sa déclaration de politique générale. Nous sommes en opposition extrêmement claire, extrêmement frontale avec un Premier ministre qui, je crois, sur aucun sujet aujourd'hui ne s'est montré à la hauteur.
Quelles sont vos lignes rouges aujourd'hui entre les menaces sur les pensions des retraités ou bien encore le projet de loi de simplification de la vie économique et ses réformes délétère pour l'écologie?
Alors, nos lignes rouges, ce sont toujours les mêmes. Nous avions censuré sur plusieurs éléments. La présence quand même de... qui est un symbole, mais Bruno Retailleau et ensuite le Premier ministre qui parle de submersion migratoire. Donc on a quand même des propos racistes. La deuxième chose, un gouvernement dont le budget est mauvais, et on le voit. D'ailleurs, les nouvelles cures d'austérité qui sont devant nous laissent présager de nouveau un budget 2020. Extrêmement dur pour les Français. Et enfin, l'abandon total de la question écologique, environnementale. Et j'en mettrai un dernier, le sujet des retraites, qui était au cœur des débats la dernière fois. Donc c'est sur ces sujets-là que nous avions censuré et c'est toujours cela que nous défendons.
C'est votre mot d'ordre pour la mobilisation pour le 1er mai. Vous y serez aux côtés de la France insoumise ?
Alors, moi, je crois que je vais manifester depuis le 1er mai, depuis que je suis enfant. Donc, bien évidemment, comme tous les ans, j'irai manifester au 1er mai, aux côtés, déjà en soutien de toutes les organisations syndicales. Il ne faut pas oublier, c'est une mobilisation de syndicats et de salariés avant tout. Et après, avec tous mes partenaires de gauche, les socialistes, les insoumis, les communistes, bien sûr, c'est un moment d'union, le 1er mai.
Et est-ce que vous serez également au rendez-vous lancé par Lucie Castel, ex-candidate du NFP, le Nouveau Front Populaire à Matignon, et qui a invité hier les chefs de partis de gauche à se rassembler le 2 juillet pour discuter d'une candidature commune à la présidentielle?
Et moi, je pense que cet appel est bénéfique et je rejoins complètement Lucie Castel. Mais vraiment, on a besoin que les partis de gauche mettent autour de la table pour travailler à ce projet commun et à cette candidature commune.
Pourquoi c'est comme cette nécessité de l'union des gauches maintenant, deux ans avant la présidentielle?
Parce que je n'en peux plus de regarder la destruction progressive de toutes les protections sociales, de toutes les protections environnementales. Nous devons pouvoir construire une dynamique gagnante, c'est indispensable. Et c'est indispensable parce que l'autre partie qui aujourd'hui est dans une dynamique et veut prendre le pouvoir, c'est le Rassemblement national.
C'est la montée de l'extrême droite qui pousse à la nécessité de cette union des gauches.
Et c'est la montée de l'extrême droite effectivement qui la rend indispensable, parce que je pense qu'on a un devoir, même un devoir moral, de ne pas laisser l'extrême droite gagner. Et la deuxième chose, et sans doute peut-être la première, c'est, je vous l'ai dit, à un moment, on peut pas juste se contenter d'être des opposants. Mmh. Moi, je pense qu'on est dans un moment où il faut affirmer qu'on a des politiques et qu'on pourrait les mettre en place. Moi, ça fait des années qu'on nous explique qu'on n'est pas raisonnable. Les conclusions de la commission d'enquête sur le budget qui montrent qu'on a des premiers ministres que ça soit Gabriel Attal, que ça soit Elisabeth Borne, qui n'ont pas vu qu'il y avait un trou de 40 milliards dans les caisses de recettes qui ne rentraient pas. Enfin, c'est délirant.
C'est une faute. Mais pour autant, est-ce que cette union des gauches peut véritablement exister? On voit le socialiste Olivier Faure, lui, veut bien une primaire des gauches, mais sans l'insoumis Mélenchon.
Non, mais elle peut exister et elle doit exister.
Une fois qu'on l'a dit, voilà, on va le faire. Mais c'est pas aussi simple que ça.
Des fois, c'est aussi simple que ça. Parce que moi, je me souviens, en 2024, avant la dissolution, on disait, ça y est, ça ne se fera jamais, on l'a fait en 4 jours. Donc en fait, en vrai, veut qu'il y ait une volonté, il y a un chemin.
Bon, merci Cyrielle Châtelain, bonne journée.
Au revoir.
Entretien à votre micro, Véronique Rigolet, à retrouver sur notre site internet rfi.fr.
RFI, la France à midi.
L'actualité française, c'est aussi ce rebondissement dans l'affaire de la pollution de l'eau, pollution par les nitrates. La France est mise en cause par la Commission européenne pour non-respect des normes et mise en danger de la santé. La Commission accuse l'État d'avoir ignoré des avertissements et des mises en demeure, Juliette Pietraszewski, et ça pendant des années, depuis 2020 et l'instauration d'une directive sur le sujet.
Oui, et ce que dénonce la Commission européenne, c'est donc un dépassement de la limite autorisée pour les nitrates, à savoir 50 mg par litre. Cette directive de 2020 est entrée en vigueur dans les pays de l'Union européenne en janvier 2023. La requête de Bruxelles vise donc 107 unités de distribution d'eau potable en France, des unités présentes dans plusieurs régions, à savoir la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, l'Occitanie et le Pays de la Loire. Or, ces dépassements de la valeur maximale fixée pour les nitrates peuvent présenter un danger potentiel pour la santé humaine, souligne la Commission européenne. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, évoque notamment des dangers pour les nourrissons. Elle associe également le risque de cancer colorectal avec l'exposition aux nitrates.
Et d'où vient cette pollution, Juliette ?
Eh bien, elle vient majoritairement de l'agriculture intensive et de la fertilisation des sols. 88% des nitrates seraient dus à l'excès d'azote présent dans les champs, notamment sous forme d'engrais. Les nitrates sont ainsi, avec les pesticides, les polluants les plus détectés dans les eaux souterraines de l'Hexagone. Exemple très concret de cette pollution en Bretagne, où les marées vertes persistent. Les marées vertes sont causées par des eaux saturées de nutriments dont les algues se nourrissent. Ces nutriments, Anne, ce sont du phosphore, de l'azote, tous les deux directement issus des nitrates. Le mois dernier, le tribunal administratif de Rennes a ordonné à l'État de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, dénonçant des mesures insuffisantes mises en œuvre par la France. Bruxelles demande une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne.
Et quelles solutions ont été mises en place pour faire face à cette pollution ?
Eh bien, la France en est à son 7e plan de lutte contre les nitrates depuis 1991. Sans grand résultat, déplore la Commission européenne. C'est une série de mesures censées inciter les exploitants à équilibrer leurs recours à la fertilisation, un plan qui manque toujours d'ambition selon les défenseurs de l'environnement. En cause, un manque d'objectifs chiffrés, de suivi, de contrôle et des dérogations pour la profession agricole obtenues auprès de préfets. Or, l'agriculture biologique est la seule réponse à la dégradation de l'eau. C'est donc un modèle agricole qu'il faut repenser, souligne des ONG et agriculteurs.
Merci Juliette Pietraszewski. Vous restez avec nous sur RFI. On se retrouve dans moins d'une minute pour une demi-heure consacrée à l'actualité européenne. On parlera notamment de l'avenir de l'Ukraine. Donald Trump met la pression pour que Kiev accepte son plan, mais pour l'instant, c'est hors de question, selon Volodymyr Zelensky.
Afro Club, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afro Club, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afro Club, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.